La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous, un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
-04 5 copains 38 97 71 71 71 71 72 45 -04 Deutsche Bank 22.
La rediffusion.
Eh bien bonjour aux auditeurs de 3DFM, vous êtes bien à l'écoute d'Un autre monde possible, l'émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles, et on va aborder ce mois-ci avec Jérôme, notre invité et président du comité d'Attaque Pays d'Arles, deux sujets très différents avec, pour commencer dans cette première partie, un thème qui revient à longueur d'antenne et dont la plupart d'entre nous ignorons les tenants et aboutissants, à savoir les agences de notation. Bonjour Jérôme.
Bonjour Hervé. Oui Hervé, les agences de notation, elles se veulent le thermomètre scientifique de l'économie. Les avis qu'elles émettent font la pluie et le beau temps auprès des investisseurs, mais les méthodes de ces agences sont pour le moins étonnantes. Au mieux, elles rappellent le fonctionnement d'un guide gastronomique, décernant ou retirant des petites étoiles à des restaurateurs tétanisés. Au pire, ce système, qui est capable de créer une panique boursière ou d'acculer un état à la faillite, ressemble à une vaste discussion de comptoir. Prétendre que ces agences disent le vrai est donc une fable, voire une supercherie. Ce qui est plus grave encore, c'est de leur reconnaître une telle légitimité et de leur accorder autant d'influence. Pourtant, les États pensent aujourd'hui leur politique dans le seul but de complaire à ces professionnels du flou. Ici, les retraites seront réformées ou le fonctionnaire non remplacé. Là, des services publics seront privatisés ou des pans entiers de l'économie dérégulés. La question n'est plus de savoir comment autant de pouvoir a pu être concédé à autant d'amateurs, mais bien d'imaginer les moyens politiques de ne plus marcher sur la tête. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une agence de notation ?
Ah ben, on va commencer par le début. Bon, tu es un investisseur, par exemple une banque ou un fonds d'investissement, ou même un particulier, et tu as envie de prêter ton argent à un État, sous forme d'obligation par exemple. Alors problème, comment savoir si cet État est viable, pour ne pas utiliser le mot rentable ? Effectivement, si tu prêtes cet argent, ce n'est pas par amour du pays emprunteur, mais bien parce que tu souhaites un petit quelque chose en retour, des intérêts. On a donc créé des agences de notation financière qui notent les États sur une échelle de 10 critères, allant de la note AAA, qui signifie sécurité maximale, à la note D, qui veut dire en défaut. Un État noté 3A est assuré de pouvoir lever des capitaux aux quatre coins de la planète et à un taux relativement faible. Plus la note baisse, plus le taux d'intérêt augmente, car les investisseurs réclament alors une prime de risque. Ainsi, tu penses que tu peux prêter ton argent en toute sécurité.
Eh ben, finalement, c'est pas si mal comme système. Des agences indépendantes qui jugent si on peut faire rapporter nos petites économies tout en aidant un État ou une entreprise à financer ses investissements. Ce qui est important, c'est qu'elles soient indépendantes, non ?
Bon, on va revenir un peu en arrière pour nos auditeurs et pour évoquer cette pseudo-indépendance. Jusque dans les années 1960, bien sûr, les agences de notation étaient payées par les investisseurs, bon, les banques par exemple, ce qui paraît tout à fait normal. Mais ce service coûtait très cher et l'information délivrée devenait de moins en moins transparente. Imagine une banque débourser des millions pour savoir si un État est solvable ou non et se faire voler cette information par une banque concurrente. Alors dans les années 70, les agences de notation ont eu la brillante idée de faire payer les émetteurs de titres, c'est-à-dire les États eux-mêmes. Pour te mettre en situation, c'est comme si tu étais étudiant et tu passais un diplôme très important. Chose particulière, c'est toi qui payes le correcteur. Celui-ci sait alors pertinemment que la note qu'il te mettra dépendra de la rémunération que tu lui donneras. C'est une relation purement à vide, mais c'est humain. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Grèce et les agences de notation. L'État grec était prêt à tout pour avoir une bonne note, et plus il déboursait, meilleure était la note. Alors tu vois que question indépendance, ce n'est pas un modèle du genre.
Mmh. Oui, tu évoquais tout à l'heure ces fameuses notes dans le triple A auxquelles chaque État rêve d'accéder ou craint de perdre quand il a cette note-là. C'est le cas de la France, mais ça fonctionne comment ?
Ben comme leur nom l'indique, le rôle principal de ces agences est de noter les entreprises ou les collectivités selon des critères définis par le marché. Cette notation n'a pas pour but d'influencer les marchés, mais force est de constater que ces derniers réagissent systématiquement à tout réajustement de notation. Les trois principales agences de notation sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles sont toutes de culture anglo-saxonne et ce sont elles qui font la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Leurs notes reflètent le risque d'investissement sur telle entreprise ou tel état. Une dégradation de note, par exemple, conduit quasi systématiquement à la baisse du cours du titre de l'entreprise concernée ou à la hausse du taux d'emprunt pour les pays visés. En gros, quand une agence de notation baisse la note attribuée à un pays ou à une entreprise, la réaction du marché est immédiate. En clair, plus la note d'un État baisse, plus les emprunts dont il a besoin coûtent cher.
Attends, quelle est la crédibilité réelle de ces agences et des bons et mauvais résultats qu'elles distribuent ?
Ces agences travaillent uniquement sur la base d'informations données par les entreprises ou les États. Leur indépendance et leur crédibilité sont donc régulièrement remises en cause. Lors de la crise des subprimes en 2008, par exemple, les agences ont maintenu le fameux triple A, donc la meilleure note, à des entreprises qui ont plongé à peine 2 semaines plus tard, entraînées par de nombreux actifs toxiques. Leur chute a déclenché, par un effet domino, dans le monde entier, la plus grave crise financière depuis la Seconde Guerre mondiale. De nombreux investisseurs sont d'ailleurs plaints de leur manque de réactivité, mais aussi du manque d'exactitude de leurs notes. Et on constate aujourd'hui encore le rôle de ces agences dans la crise grecque et plus largement aujourd'hui de l'Union européenne, ou celle qui touche les États-Unis.
Et quelle est la valeur scientifique de ces notes ?
Ces notes n'ont pas de valeur scientifique. Les agences de notation financière insistent sur le fait que leur notation est une opinion. Outre que ceci leur assure une certaine protection légale, du fait du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté de parole, les agences finalement ne garantissent rien à personne et ne sont pas responsables des conséquences de décisions prises d'après leur opinion.
Et tu sais qui sont les propriétaires de ces agences de notation ?
Ces agences sont des entreprises comme les autres qui existent pour générer du profit. Par exemple, Moody's est contrôlée à hauteur de 13% par le milliardaire américain Warren Buffett. Fitch appartient à la société financière française Fimalac, fondée par Marc Ladré de La Charrière et au groupe de presse Hearst à hauteur de 20%. Quant à Standard & Poor's, il est contrôlé par l'éditeur américain McGraw-Hill Companies. Tu vois qu'entre le fait que ces agences sont payées par ceux-là même à qui elles mettent des notes et que de plus elles sont détenues par des grands groupes financiers, leur légitimité et leur indépendance est plus que suspecte.
Les agences de notation ne seraient donc pas fiables ?
Depuis 15 ans, les agences n'ont vu venir aucune crise. Elles n'ont pas vu venir la faillite des États sud-américains dans les années 80, ni la crise des subprimes en 2008. Elles n'ont pas non plus alerté avant 2009 sur l'état des finances publiques grecques. Elles ne sont donc pas très crédibles. Rappelons aussi que les agences de notation ont maintenu une bonne notation pour Enron jusqu'à 4 jours avant la faillite. L'importance de l'événement avait amené à l'époque le Congrès américain à enquêter sur la question de savoir si les agences devraient ou non être réglementées.
Et en plus, si je résume tout ce que tu as dit depuis le début, elles ne sont vraiment pas indépendantes.
On l'a déjà dit, mais le fait que les notés soient aussi les payeurs pose évidemment un problème de fond. Payées par les sociétés qui veulent être notées, les agences seraient parfois tentées d'attribuer une meilleure note que celle méritée réellement afin de remporter un contrat au détriment de ses deux autres concurrentes. Par ailleurs, le fait que ces entreprises puissent appartenir à des financiers puissants, pouvant avoir des relations de connivence politique avec tel ou tel parti ou homme politique, peut poser aussi un sérieux problème.
Oui, en gros, ce qui se passe, c'est la énième confirmation de ce que dit Attac depuis 20 ans. Instable, fragile, le système est désormais en crise tous les 4 ans. Nos gouvernements sont coincés sur une ligne de crête impossible à suivre. D'un côté, il faut gérer le coût de la dette, subir les sanctions des agences de notation. De l'autre, ne pas affaiblir la croissance, car ce sont des recettes fiscales. Tant qu'on n'aura pas pris des mesures radicales, la crise continuera. Les gouvernements et les banques centrales sont obsédés par une chose, ils veulent rassurer les marchés. Mais est-ce qu'Attac a des propositions concrètes ?
Oui, mais ces propositions ne seront efficaces que si on leur donne une chance. Nous, plutôt que de rassurer les marchés, nous disons qu'il faut désarmer les marchés. Bien plus qu'un réajustement sémantique, l'ambition d'Attac réside dans de solides propositions. Les mêmes, depuis plus de 10 ans. D'abord la fameuse taxe sur les transactions financières, plus que jamais au goût du jour, et à mettre en œuvre au plus vite. En imposant une taxe de 0,1% sur les échanges d'actions ou les opérations monétaires, l'Union européenne récolterait 30 à 50 milliards d'euros par an. Sans peine, et ce serait surtout un signal fort en direction des spéculateurs. Moqué il y a 10 ans, le principe de la taxation des transactions financières est désormais devenu un enjeu politique. Et même Valérie Pécresse, ministre du budget, a assuré que le consensus européen pour son adoption était en train d'avancer.
Oui, actualité oblige, on parle de bourse, d'agences de notation, de dette. Mais il n'y a tout de même pas que la taxation des transactions financières dans les propositions d'Attac.
Non, bien sûr, il y a un ensemble de propositions. Parmi ces autres propositions d'Attac, il y a par exemple l'interdiction des pires outils spéculatifs, comme les ventes à découvert, ou les fameux CDS, sont des assurances contre le défaut de paiement d'un État. Mais aussi la nationalisation des banques, qui ne peuvent survivre sans le recours aux États. Et bien entendu, un encadrement strict des paradis fiscaux jusqu'à leur suppression. Et dès maintenant en Europe, qui en compte un certain nombre.
Et j'ai entendu parler d'un audit des dettes et de la création d'un collectif pour la réalisation de cet audit. Le but étant de constater ou pas la légitimité de cette dette pour pouvoir en annuler tout ou partie.
Oui. ATTAC propose un audit des dettes pour évaluer la part publique-privée de l'endettement. En Europe, et à gauche, le débat se focalise sur la taxation des riches, la solidarité européenne, l'émission d'eurobonds. Mais ça ne répond pas aux questions posées. Il faut analyser ce qui mérite d'être remboursé et ce qui ne le mérite pas. Et en attendant, à poser un moratoire sur les prêts. Pourquoi les peuples doivent-ils accepter des plans d'austérité pour rembourser des dettes dont ils ne sont pas responsables? Les plans mis en place ne fonctionnent pas. N'allègent pas la dette, réduisent les dépenses publiques à leur portion congrue au point que l'on envisage de privatiser des services publics municipaux. Ça n'est pas acceptable.
Bon, on le voit, il y a du grain à moudre pour faire bouger à la fois le système et les États.
Les dirigeants ne bougeront pas s'il n'y a pas de pression de la part des mouvements sociaux. Et grâce à la crise, paradoxalement, nous sommes en situation de faire boucher les choses. Les gens sont en colère contre les banques qui utilisent leur argent sans limite et créent de la valeur avec. Il faut un contrôle social de ces établissements. Des propositions à débattre sans attendre et ATTAC s'y emploie au quotidien.
Puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire. Les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouze et les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte. Un kilomètre d'autoroute, un grand stade à footballer, Super Phoenix réformé. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer? Combien ça coûte la souffrance? Combien ça pèse la détresse? Combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France? Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocète, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige? Combien ça coûte l'indifférence? La 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 la. Puisque la seule valeur qui vaille en cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.
La rediffusion.
Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'avant-première du film de Christian Rouault intitulé « Tous au Larzac » qu'ATTAC Pays d'Arles projettera au cinéma Actes Sud le vendredi 11 novembre à 20h. Jérôme, il part de quoi ce film sur le Larzac ?
Nous choisissons le Larzac, c'est un pays déshérité. C'est ainsi qu'un jour d'octobre 71, Michel Debré, alors ministre de la Défense, décrète sans concertation préalable l'agrandissement du camp militaire du Larzac. À l'annonce de cette décision effarante, la colère se répand comme une traînée de poudre. La réaction des paysans est radicale. Si on veut nous prendre nos fermes et nos terres, on partira les pieds devant et on ne sera pas les seuls. Une vague unanime de protestations et de résistance s'organise. C'est le début d'une incroyable lutte qui durera 10 ans.
Et qui continue aujourd'hui avec le gaz de schiste, mais on en reparlera. Dis-moi avant quelques mots sur ce réalisateur Christian Rouault.
Né à Paris en 1948, Christian Roux a d'abord été professeur de lettres, puis responsable de formation audiovisuelle dans l'éducation nationale. Durant cette période, il a réalisé des films pour le système éducatif et a participé à différents projets sociaux et culturels, notamment un circuit interne de télévision à la prison de Fresnes et la création de l'association Audiovisuel pour tous dans l'éducation, qu'il a présidé pendant 5 ans. Il est également l'auteur du roman « La salle des profs », édition Syros 1983, et en 2007, il frappe fort avec « L'ELIP, l'imagination au pouvoir », long-métrage documentaire consacré à la grève des usines LIP à Besançon, qu'on avait d'ailleurs projeté à Arles lors d'un de nos festivals de cinéma. Et en 2011, avec Tous au Larzac, il raconte à nouveau l'histoire d'une lutte, celle des paysans du Larzac face à l'armée.
Alors, revenons à l'histoire de cette lutte du Larzac et à l'annonce du projet d'extension du camp militaire.
C'est le 11 octobre 1970 à la cavalerie qu'est dévoilé le projet d'extension du camp militaire du Larzac, projet qui suscite des mouvements de protestation. Le 9 mai 1971, 1500 personnes marchent de Millau à la cavalerie. Le 6 novembre, 6000 personnes défilent dans les rues de Millau. En mars 1972, Lanza del Vasto observe un jeûne de 15 jours. Les paysans se joignent à lui et s'engagent dans une longue lutte non violente contre le projet d'extension. 103 sur 107 d'entre eux signent un serment en prenant solidairement l'engagement de ne pas quitter leurs terres et de n'accepter aucune transaction. Le 14 juillet suivant, 70 tracteurs et 2000 personnes défilent à Rodez.
Et c'est un peu comme le mouvement des indignés aujourd'hui. Il s'agit d'une lutte non violente et qui s'enracine dans la population.
Oui, le pouvoir déclare d'utilité publique le projet d'extension. Le camp doit passer de 3000 à 17 000 hectares. L'enquête a lieu en octobre 1972 et le préfet prend son arrêté le 26 décembre. Pendant l'enquête, 60 brebis vont paître sous la tour Eiffel à Paris. En janvier, ce sont 70 tracteurs qui partent du Larzac vers Paris. Pour pouvoir s'implanter plus solidement sur l'Écosse, les paysans créent l'APAL, l'Association pour l'agriculture sur le Larzac. Avec l'aide de volontaires, une bergerie monumentale est bâtie au hameau de la Blaquière. En avril 1973, 60 paysans renvoient leurs papiers militaires. Parce que les pouvoirs publics ne montrent qu'un Larzac désert, peuplé de personnes âgées et de cailloux, les Larzaciens demandent et obtiennent la création d'une école et de deux classes, qui est ouverte sur le plateau en octobre 1973. Pour acheter les terres convoitées par l'armée, un premier GFA, Groupement Foncier Agricole, est constitué en décembre 1973. Deux grandes manifestations ont lieu sur le Larzac en août 1973 avec 60 000 personnes sur le thème « Les luttes ouvrières et paysannes » et en août 1974 avec 100 000 personnes sur le thème « Moisson tiers-monde ».
Oui, on voit bien là, la résistance s'organiser et prendre de l'ampleur. Mais pendant ce temps-là, l'État continuait à faire la sourde oreille et la procédure d'extension se poursuit.
Mais c'est bien ça. En octobre 1974, des membres de la communauté non-violente de l'Arche, soutenus par les paysans, occupent la ferme de Truelle, acquise par l'armée. Les comités qui dans toute la France rassemblent des défenseurs du Larzac tiennent régulièrement des réunions de coordination à partir de 1974 et prennent une part de plus en plus active à la lutte aux côtés des paysans. La procédure juridique en vue de l'expropriation reprend au printemps 1975. L'enquête parcellaire a lieu en février-mars dans les 11 communes concernées et provoque plusieurs manifestations. Les paysans renforcent et organisent la résistance, l'association Larzac Université est créée en 1975, le mensuel Garde-Rame le Larzac, journal des paysans et des comités Larzac, paraît en juin 1975.
5 ans ont donc déjà passé depuis l'annonce de l'extension du camp et c'est tout un pays qui soutient maintenant les paysans sans que cela ne change rien.
Pendant 3 années, la procédure d'expropriation semble arrêtée. Le pouvoir a pris la mesure de la résistance paysanne et populaire. Il cherche à séduire les paysans en leur proposant une concertation en vue d'une mini-extension. En même temps, l'armée achète des terres à des spéculateurs pour n'avoir pas à les exproprier. Enfin, l'administration doit passer 2 périodes électorales. En 1977, la gauche gagne les municipalités de nombreuses villes, mais en 1977, c'est la droite qui conserve la majorité à l'Assemblée nationale, après l'échec de l'Union de la gauche. Sur le terrain, les paysans accentuent leur présence, occupent les propriétés de l'armée et exploitent les terres. Des chantiers sont ouverts pour aménager terrain et bâtiments, pour installer l'eau et le téléphone. Un centre de recherche sur les méthodes d'action non violente s'installe en octobre 1975 sur la ferme de Koundou-Larzac, acquise par l'armée. Le 28 juin 1976, 22 paysans et résidents investissent les bureaux du camp militaire où sont préparées les acquisitions de l'armée. Ils compulsent et déchirent les dossiers d'achat de terres. Tous sont jetés en prison et certains vont y rester 3 semaines. En août 1977 a lieu sur le Larzac le 3e grand rassemblement et a pour thème « Vivre et travailler au pays » auquel participent 60 000 personnes.
On en arrive maintenant à l'année 78 où le pouvoir giscardien se sent plus fort que jamais malgré les immenses rassemblements et les comités Larzac qui ont fleuri dans toute la France.
Oui, fort de ses succès électoraux, le pouvoir reprend la procédure en septembre 1978. Les ordonnances d'expropriation succèdent aux arrêtés de cessibilité. Pour populariser la protestation, les paysans entreprennent une marche à pied du Larzac à Paris du 8 novembre au 2 décembre 1978. 80 000 personnes les accueillent à leur arrivée. Durant l'année 1979, la lutte continue sur le terrain et dans chaque commune. Les paysans barrent le passage au juge qui prétend venir évaluer leur propriété. La procédure d'expropriation doit être refaite en octobre et en novembre 1980. Fin novembre, les paysans sont à nouveau à Paris avec leur famille. Ils campent pendant 10 jours, d'abord sur le Champ de Mars, puis sur une péniche au bord de la Seine. De décembre 1980 à février 1981, l'offensive du pouvoir se fait plus pressante. Le ministre de la Défense et le préfet cherchent à séduire les élus locaux de l'Aveyron et les dirigeants des organisations agricoles. Le 24 février est signé à Paris un protocole d'accord qui est formellement rejeté par les paysans. Durant ces trois années particulièrement éprouvantes, les militants des comités Larzac multiplient les initiatives. Des milliers de livrets militaires sont renvoyés pour soutenir la résistance.
Et puis arrive le 10 mai 1981 et l'élection de François Mitterrand, qui avait parmi ses promesses de campagne d'annuler le projet d'extension du camp militaire,
La volonté de résistance des paysans leur a permis de tenir tête plus de 10 ans aux prétentions de l'armée et du pouvoir, avec l'appui des dizaines de milliers d'amis du Larzac. Cela a demandé énormément d'énergie, de temps et d'argent. Pour organiser la lutte, ce sont des centaines de réunions qui ont été réalisées sur le Larzac, mais aussi partout en France. C'est à l'issue du Conseil des ministres du 3 juin 1981 qu'est annoncé le projet d'abandon d'extension du camp. Le 7 juin, les militaires quittent les 5 fermes qu'ils occupaient depuis octobre 1976. C'est le début d'un long processus qui devrait faire du Larzac une région modèle de développement agricole et un haut lieu pour l'élaboration et la diffusion des idéaux de paix et de liberté.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors, Jérôme, sur cette lutte exemplaire ?
Le système nous veut triste et il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister, disait Gilles Deleuze. Et pourtant, la lutte est souvent réjouissante, c'est particulièrement vrai pour celle du Larzac, dont certains épisodes font irrésistiblement penser à Guignol, Niafron ressent le gendarme. Nombreux sont d'ailleurs les protagonistes qui avouent le plaisir qu'ils y ont pris. Il y a dans cette histoire matière à rêver d'une société où il est possible de dire non à l'inacceptable, où il est possible d'imaginer ensemble, où l'individu trouve sa place dans une communauté vivante qui ne fait pas de lui un simple exécutant de décisions prises forcément au-dessus de lui. Il ne s'agit pas là de proposer un modèle, l'histoire ne repasse pas les plats, rien n'est transposable, le monde va si vite. Quant au modèle qu'on a prétendu nous faire suivre naguère, ils ont fait faillite quand ils ne sont pas terminés en bain de sang. S'il y a une actualité du Larzac, c'est là qu'elle se trouve, à mes yeux, dans ce que cette histoire peut remuer en nous, dans la force subversive dont elle est porteuse.
Monsieur le Président, je vous fais une bafouille, que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés et puis les militaires. Les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi. Dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con. Je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Président, je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt. J'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait ? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi, j'aurais l'air malin avec ma bicyclette. Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Monsieur le Président, pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
On arrive à la dernière partie de cette émission avec l'agenda du mois de novembre, l'agenda d'attaque Pays d'Arles. Et je commence avec donc la réunion mensuelle de l'association qui est ouverte à tous, adhérents ou pas, qui aura lieu le lundi 7 novembre de 19h à 22h à la Maison de la Vie Associative Boulevard des Lys à Arles. Donc lundi 7 novembre de 19h à 22h avec la projection d'un documentaire sur la crise de la dette, un documentaire grec justement qui s'appelle Deptocratie. Donc l'entrée libre dans la limite des places disponibles et ce sera suivi d'une discussion.
Oui, mais avant cela, le 5 novembre à Salon de Provence, il y a une conférence Sortir du nucléaire à l'Atrium, donc samedi 5 novembre à partir de 15h, avec notamment Roland Desbordes de la CRIRAD, Attaque sera présent et c'est à l'initiative de l'équitable salonnaise.
Et puis les marchés paysans, une fois tous les 15 jours sur le marché paysan d'Arles, le samedi de 10h à midi, vous pouvez rencontrer les attaquiens, pas les attachiens, les attaquiens. Donc ça aura lieu le 12 et le 26 novembre de 10h à midi. On y trouve des livres, des publications, on peut parler, puis on y voit de jolies filles et de jolis garçons.
Et donc ce dont nous parlions en deuxième partie de cette émission, vendredi 11 novembre à 20h au cinéma Actes Sud, Aix-Méjean, l'avant-première du film de Christian Rouault, Tous au Larzac. La projection sera suivie d'une discussion animée par Gilles Lemaire, qui est membre du conseil d'administration d'Attaque France, faucheur volontaire, secrétaire national des Verts de 2003 à 2005, en présence et avec de nombreux acteurs de ces luttes, en la personne de beaucoup des adhérents d'Attaque Pays d'Arles.
Et puis, encore du cinéma, mais cette fois-ci en partenariat avec l'association étudiante Deux Films en Aiguille, bien connue sur les ondes de 3DFM. Donc, ce sera une projection débat en commun avec Attaque à l'amphithéâtre Van Gogh le lundi 28 novembre à 20h15. Donc, lundi 28 novembre à 20h15 à l'amphi Van Gogh. Donc, ce sera un film palestinien, Les Citronniers, qui sera présenté par Attaque Pays d'Arles.
La radio a annoncé qu'un tremblement de terre a secoué le sud de la France. Mais quelle bande d'imbéciles! C'est pas malin de monter à 5 sur l'échelle de Richter, alors qu'elle est vieille et fragile. Alors qu'elle est vieille et fragile.
Et donc maintenant, la devinette qui a dit. Qui a dit? Pour la terre qui fait vivre contre les armes qui tuent, la résonance universelle de ce qui est ainsi affirmé dans ce lieu singulier, l'ambiance prophétique qu'on y ressent quant à l'humanité à promouvoir, oui, l'expérience des luttes du Larzac joue un rôle très particulier dans notre mémoire. Elle ouvre les cœurs à une émotion communicative. C'est comme si elle nous incitait à aborder avec plus de confiance et plus de détermination les défis vécus comme graves. De l'humanisme dont cette expérience porte la marque, nous savons que nous avons plus que jamais besoin.
C'est Claude Guéant, Brice Hortefeux. Me dis pas que c'est Jean Noël, ou même Dieska.
Eh non, c'est Stéphane Hessel, ce jeune monsieur de 93 ans qui a écrit « Indignez-vous ». Donc je te disais Stéphane Hessel dans un texte tiré de la préface du livre « Le Larzac s'affiche » aux éditions du Seuil.
Eh bien voilà, c'était un autre monde possible, l'émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles qui sera rediffusée le jeudi 17 novembre de 11h à 11h30 et notre prochain rendez-vous le mercredi 7 décembre à 18h10. Au revoir Jérôme.
Au revoir Hervé.
C'était un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain le premier mercredi du mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. À bientôt.
Bon, voilà. C'est bon.
C'est bon quand même.